Bonjour à tous mes frères et sœurs dans le Christ. Alors, je vais vous raconter la suite de la naissance d'une congrégation. Je l'avais fait au mois de janvier. C'est une congrégation qui a été fondée par le père François Liberman. Ils étaient donc partis en mission en Afrique, Haïti, l'île de la Réunion et les Antilles. Alors, je vais commencer la conférence, mais je ne la terminerai pas. Alors ne soyez pas étonnés si je m'arrête, car il y a une visite importante qui s'annonce à la basilique. Alors vous n'aurez pas la fin aujourd'hui, mais vous l'aurez le mois prochain. Voilà. Donc on arrive au début janvier 1846, en la fête de l'Épiphanie. Arrive à Paris un Savoyard de 34 ans, l'abbé Truffet. Professeur de rhétorique depuis 10 ans, il vient aux missions étrangères de Paris qu'il accepte, mais il veut d'abord aller à Notre-Dame-des-Victoires. Et là, des doutes l'assaillent. Est-il fait pour cette illustre société qui compte tant de martyrs ? Ah, je crois, dit-il, qu'il vaudrait mieux se cacher, d'entrer dans quel institut inconnu dédié aux cinq cœurs de Marie. Et deux jours plus tard, il en parle au père Desgenettes, qui n'y va pas par quatre chemins. Vous, mais allez à la Neuville, qui était le noviciat de la congrégation du Saint-Cœur de Marie. C'est là que Marie vous veut. Et en effet, le père Truffet entrait au noviciat un mois plus tard. La scène se renouvelle avec Isaïe Boulanger, ancien cultivateur, missionnaire diocésain à Poitiers. Ce prêtre de 46 ans, destiné aux missions étrangères de Paris, change d'avis lui aussi à Notre-Dame-des-Victoires et le 3 février, il arrivait au noviciat. Liberman, le fondateur, a tôt fait de jauger ses deux recrues et dès le début de février, il réserve le père Truffet pour succéder au père Tisserand en Haïti. À Rome, en juin 1846, le fondateur comprend que la mission des deux Guinées doit être organisée sur un autre pied. Il faut un évêque à sa tête. Et il propose trois sujets, d'élite, Bessieux, Truffet et Boulanger. Le père Truffet étant de nationalité piémontaise, à la préférence. Alors je précise qu'à cette époque, la Savoie et Nice n'étaient pas françaises. Elles le deviendront en 1860. Il ne faut pas, écrira celui-ci, aller en Afrique pour établir l'Italie, la France ou quelque autre nation européenne, mais uniquement la Sainte Église romaine. Il faut se dépouiller de tout ce qui est européen pour ne garder que les pensées de l'Église qui sont celles de Dieu. Nommé en septembre, la nouvelle n'arrive à la Neuville qu'à l'épiphanie de 1847. Donc Truffet et Boulanger, à ce jour, doivent se consacrer officiellement à l'apostolat. Liberman ne dit rien. Mais trois jours plus tard, le samedi, il contacte le père Truffet et lui annonce la décision romaine. La foudre serait tombée dans la chambre que Truffet n'eût pas été plus saisi. Il demande à réfléchir. Mais le soir, il accepte. Cependant, il doit garder le lit pendant deux ou trois jours. Et le sacre de Monseigneur Truffet a lieu à Notre-Dame-des-Victoires le lundi 25 janvier 1847, en la fête de la conversion de Saint-Paul. Le père Desgenettes est heureux et contribue largement aux frais, mais il ne peut s'empêcher de dire, entre guillemets, à son petit-fils, qu'il appelle grand-père, « Vous ne vivrez pas longtemps ». Hélas, le curé avait vu juste. Le samedi 8 mai, l'évêque qui avait été nommé vicaire apostolique des deux Guinées en remplacement du père Tisserand débarque à l'actuel Dakar, où les missionnaires s'étaient établis face à l'île de Gorée. colonie française. Et là, ils ne dépendent que du roi indigène, le musulman Eliman, fort bienveillant et qui devient vite l'ami du prélat. 10 prêtres et sœurs assistent Monseigneur Truffet. On étudie la langue, on bâtit, on cultive. Mais malheureusement, on est au début de la mauvaise saison et l'évêque impose à tous la nourriture indigène, fort débilitante pour des Européens. Le 21 novembre, en la fête de la présentation de la Sainte Vierge, il ne peut célébrer et le lendemain, il était mort. La nouvelle de son décès arriva en France au début de janvier 1848. Liberman écrivit aussitôt au roi Eliman, fort affligé, « Mon cœur est aux Africains, tout aux Africains, tout aux hommes noirs. Je veux que toute ma vie, je sois occupé à procurer, à faire le bonheur de l'Afrique, de toute l'Afrique. » Le père Desgenettes réconforte Liberman et lui dit d'espérer contre toute espérance. « Seigneur, même si vous veniez à m'écraser, j'aurai encore espoir en vous. » Alors déjà en 1844, le père Liberman écrivait au curé de Notre-Dame-des-Victoires « Je vais vous rendre compte des choses comme un enfant à son père, avec simplicité et confiance. Il est certain que notre petite œuvre des Noirs doit à la puissante protection du très saint et immaculé cœur de Marie et son existence et tous les progrès qu'elle a faits depuis le peu de temps qu'elle est fondée. Tous les pieux confrères qui l'ont commencé et poursuivi avec moi en sont intimement convaincus et nos cœurs sont remplis de reconnaissance envers la glorieuse Reine du Ciel. Je suis comme toujours votre très reconnaissant, très affectionné et très respectueux enfant dans la charité du très saint et immaculé cœur de Marie. » Et en juin 1848, un nouvel évêque est nommé Jean Bessieux, le pionnier du Gabon. Mais cela ne suffit pas, car Bessieux a déjà 45 ans. On lui donne donc un coadjuteur de 28 ans, qui s'installera à Dakar. Le premier retourne à Libreville. Il y mourra en 1876, à 76 ans, après 33 années passées sous le zéro équatorial. Son coadjuteur, Monseigneur Cobès, s'éteindra en 1872. Les missionnaires du 5 heures de Marie avaient sauvé l'Afrique. Toujours cette année 1848, elle allait donner un tournant décisif à la jeune congrégation. Le recrutement des missionnaires du 5 heures de Marie progressait tellement que la maison de la Neuville devenait trop étroite, malgré les agrandissements. Liberman installa à Amiens maison mère et noviciat. Les étudiants étaient logés à 5 lieues. 5 lieues, ça fait en gros 20 kilomètres, dans un vieux moutier appelé Notre-Dame du Gard. Et le père Desgenettes, qui ne sortait jamais, vint spécialement bénir ses enfants. En l'été 1847, ils étaient 75, sans compter une vingtaine de missionnaires déjà à pied d'œuvre en Afrique, à l'île Bourbon et à l'île Maurice. Régulièrement, des renforts leur arrivaient. La France était en paix et l'avenir prometteur. Mais le 24 février 1848, le roi Louis-Philippe abdique et la République est proclamée. Le clergé n'eut pas à souffrir. L'archevêque de Paris était à cette époque Monseigneur Affre, qui va mourir sur les barricades. Donc les œuvres continuent sans incident, mais les missionnaires du 5 heures de Marie allait être dissous par le Saint-Siège et ce sera la fusion avec la congrégation du Saint-Esprit. Il existait à Paris depuis 1703, au quartier latin derrière le Panthéon, un séminaire. C'était le séminaire du Saint-Esprit. Les rois et Napoléon l'avaient chargé d'assurer la desserte de nos vieilles colonies, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Sénégal, Bourbon, etc. À cette tâche, les missionnaires n'avaient pas failli, puisque 175 paroisses étaient fournies de prêtres. Malheureusement, l'esclavagisme sévissait encore et trop de prêtres ne s'occupaient que des Blancs, délaissant les Noirs. Quant à la congrégation du Saint-Esprit, elle se mourait tout doucement, faute de recrutement. La révolution de 1848 lui porta le coup de grâce. Son supérieur général, Mgr Leguet, suspect au nouveau gouvernement, dut donner sa démission. Pour le remplacer, on choisit un missionnaire de l'île Bourbon, de passage en France, l'abbé Monet, que tout le monde appelait le père des Noirs. Ce prêtre de 36 ans était l'ami de Frédéric Levavasseur. Et deux jours plus tard, le 4 mars, la République annonce l'abolition de l'esclavage et donne le droit de vote immédiat à tous les Noirs. Alors beaucoup ne voient dans cette proclamation qu'un geste démagogique. Mais Liberman écrit tout de suite à ses hommes « N'est-ce pas une merveille que Dieu a opérée ? Pauvres gens, quelle joie ils vont avoir ! Je suis tout heureux du bonheur de nos bons enfants. » Alors l'abbé Monet, lui, n'était pas un spiritain, mais un tertiaire du Saint-Esprit. Il était peu fait pour diriger un séminaire et traiter avec l'État. Et ses quatre confrères et lui s'en rendent compte rapidement. Comment faire face à la nouvelle situation ? On ne voit qu'une solution, recourir aux missionnaires du Saint-Cœur de Marie, trop contrecarré jusqu'ici par le supérieur sortant. À Pâques, Liberman est officiellement contacté. À la Pentecôte, le principe est admis. À la fête de Saint-Pierre, un messager est envoyé à Rome pour traiter. La réponse se fera attendre 3 mois. La congrégation du Saint-Esprit était de droit pontifical et jouissait en France d'une existence légale. Mais leurs règles n'étaient même pas approuvées par l'évêque d'Amiens vis-à-vis de l'État. Français, il n'existait pas. Le Saint-Siège rendit sa décision. Les missionnaires du Saint-Cœur de Marie sont dissous et autorisés à entrer dans la congrégation du Saint-Esprit à titre individuel. Donc l'abbé Monet est nommé vicaire apostolique de Madagascar et le père Liberman devient le supérieur général des spiritains. Cette décision souleva des remous à Amiens, mais Liberman sut imposer raison. Quant au père Desgenettes, il était pour et sur son lit de mort, il redisait encore « J'ai été prophète sans le savoir. J'ai prédit cette fusion plusieurs années avant le fait et à plusieurs reprises. J'ai même prédit la date à laquelle elle devait avoir lieu. » Et moins de 3 ans plus tard, il ne restait plus qu'un seul ancien spiritain dans la société. La fusion, qui était quand même une opération difficile, s'accomplit dans les meilleures conditions. Les nouveaux spiritains purent nouer avec l'archiconfrérie et son fondateur des relations plus étroites encore. La conversion des Noirs, et surtout celle de l'Afrique, était l'objet de prières continuelles. Et chaque jour, au cours de la messe, le père Desgenettes avait un memento spécial pour les missionnaires. La Sainte Vierge bénissait leur œuvre de façon évidente. À l'île Bourbon, désormais appelée île de la Réunion, Levavasseur et ses quatre confrères s'étaient vus confier d'un seul coup 60 000 esclaves pour les préparer à la liberté imminente. Et dans toute l'île, ils organisaient des missions quartier par quartier. La libération se déroule dans le calme le plus parfait, au chant des cantiques. Et chose incroyable, les Noirs, guidés par Levavasseur, acceptent de rester esclaves 2 mois de plus pour bien se préparer. Alors, quelle différence avec les Antilles où l'on dut déplorer pillage, incendie et massacre. Levavasseur dira lui-même que c'est là le triomphe de Notre-Dame des Victoires. Et quant au père Laval, en 6 ans tout seul, il convertit plus de 8 000 Noirs qui se font catéchistes, fondent des chapelles. La première est dédiée aux 5 heures de Marie. Et lorsque les renforts arrivent en 1848, les 65 000 Noirs, pratiquement convertis, et 40 000 personnes assistent aux obsèques du père Laval, qui, je le répète, sera béatifié par Saint Jean-Paul II en 1979. Le père Liberman ne renia jamais ce qu'il avait écrit au père Desgenettes en 1844, bien au contraire. Sa dévotion et son affection n'avaient fait que croître. Il est certain que notre petite œuvre des Noirs doit à la puissante protection du très saint et immaculé cœur de Marie son existence, à tous les progrès qu'elle a faits, tous les pieux confrères qui l'ont commencé et poursuivi avec moi en sont intimement convaincus, et nos cœurs sont remplis de reconnaissance envers la glorieuse Reine du Ciel. De 1849 à 1851, Liberman mena littéralement une vie de galérien, réussissant à sortir les vieilles colonies de leur enlisement et à faire nommer des évêques aux Antilles, à La Réunion, et les bureaux, d'ailleurs, à Paris et à Rome, en discutaient depuis 40 ans. Monseigneur Monet étant mort en débarquant à Madagascar, Liberman avait fait donner la grande île et ses dépendances aux jésuites. Les nouvelles règles spiritaines étaient rédigées et distribuées. Maintenant, pour le père Liberman, qui avait 49 ans, sa tâche était finie. Il était usé par le labeur et les maladies. Et dès qu'il se fut gravement malade, en janvier 1852, le père Desgenettes vint le voir tous les jours. Le 1er février, qui était alors la fête patronale de l'archiconfrérie, le curé prit la parole. « Un de mes amis, un saint, est à l'agonie. C'est le révérend père Liberman, fondateur et premier supérieur d'une société qui devait porter le nom du saint et immaculé cœur de Marie, qu'il a tant aimé toute sa vie. Il a choisi ce vocable parce qu'il aimait beaucoup l'archiconfrérie. Mes frères, je vous le répète, je perds en lui un ami et un modèle. » Et le père Liberman mourut le lendemain après-midi durant le chant du Magnificat. Et ce fut le père Desgenettes qui célébra la messe de Requiem et donna l'absoute au séminaire du Saint-Esprit, qui, à l'époque, était à Chevilly-la-Rue. Ce deuil resserra encore les liens affectueux qui unissaient les spiritains au vieux curé de Notre-Dame des Victoires. Le vieillard, âgé de 74 ans, estimait qu'il se devait plus encore que par vers le passé à ceux qu'il appelait ses orphelins, et qui réclamait son secours. Le nouveau supérieur des spiritains n'avait que 33 ans. Le père Desgenettes demeura leur guide discret, leur ami, leur grand-père. Les chroniques du temps nous disent qu'il regardait la maison du Saint-Esprit comme la sienne, et s'il avait besoin de repos, c'est parmi ses enfants qu'il venait refaire ses forces. Il les invitait souvent pour des cérémonies à Notre-Dame des Victoires. Il leur procura même une maison à proximité de l'église. Et 8 ans plus tard, ce cher père de Genève s'éteignait doucement, entouré de ses prêtres, mais aussi des spiritains dont il avait exigé la présence. C'était le 25 avril 1860. Et le supérieur général des spiritains écrivit aussitôt à tous les membres de la congrégation: nous regardons M. Desgenettes comme notre second fondateur. Donc à la mort du père Desgenettes, il n'y avait en Afrique noire que le seul vicariat apostolique des deux Guinées, groupant seulement quelques milliers de catholiques. 100 ans plus tard, donc en 1960, il existait plus de 300 diocèses, 30 millions de catholiques et 6 millions de catéchumènes. La croisade de prière lancée le 2 février 1839 par l'archiconfrérie fut magnifiquement bénie. C'est le fruit de la confiance envers la Vierge Marie. La puissance de Dieu s'exerce dans le temps qui n'est pas le nôtre. Je pense que les prières incessantes de l'archiconfrérie touchent le cœur de Marie, en témoignent des conversions obtenues après 20, 30 ans de prières confiantes et espérantes envers et contre tout. Alors pour terminer, je voudrais ajouter un commentaire sur le père Liberman, qui figure sur un des panneaux de l'autel, derrière le père Desgenettes. François Liberman, donc, était fils de rabbin. Il était né à Saverne. En janvier 1840, il part à Rome avec David Paul Drac, lui aussi juif converti, et bibliothécaire pour la propagation de la foi. Ils obtinrent une audience auprès du pape Grégoire XVI. Le 17 février, ils remirent un mémoire de la propagande pour le projet de l'œuvre des Noirs. Une réponse favorable leur parvint le 6 juin, à condition que François Liberman reçoive l'ordination sacerdotale. En 1846, il rédigea un mémoire sur la mission des Noirs en général et sur celle de la Guinée en particulier, qui sera sa charte missionnaire et la base de travail que lui et ses compagnons entreprenaient, ainsi que le premier plan d'ensemble pour l'évangélisation de l'Afrique noire. En 1850, il écrivit un mémoire concernant les évêchés coloniaux et les rapports des évêques concernant le pouvoir en place. Et c'est en 1851 qu'il rédigea ses instructions aux missionnaires, qui sera en quelque sorte son testament spirituel. Dans ses voyages à travers la France, il voyait que beaucoup de pauvres étaient aussi abandonnés qu'en pays de mission. Il fit en sorte que la congrégation commença à s'occuper d'actions sociales et religieuses. Parmi les manœuvres et employés d'Amiens, de Bordeaux et de Paris, la dépouille du père Liberman fut transférée au séminaire de Chevilly-Larue en 1865. Depuis 1967, il repose dans la maison mère de la congrégation à Paris, située rue Laumont dans le 5e. Il est vénérable depuis 1910. Et pour finir, je vais vous lire l'extrait d'une lettre qui vient des enfants de Saint-Louis du Sénégal, envoyée à Notre-Dame des Victoires le 13 mai 1863. On nous a assuré, bonne mère, que dans le pieux sanctuaire qui vous est consacré au cœur de la capitale de la France, vous vous plaisiez à entendre toutes les demandes qui vous sont faites de la part même de petits-enfants comme nous, qu'au pied de votre image, les pécheurs se convertissent et que ceux qui demandaient la persévérance dans la vertu étaient sûrs de l'obtenir. On nous a affirmé que si nous étions bien fidèles à vous prier, nous finirions par obtenir la conversion de nos parents et de nos amis qui sont encore mahométans. Et nous avons voulu vous écrire pour vous supplier de changer leur cœur. Bénissez-nous, bonne mère, ainsi que tous nos petits qui ne savent pas encore écrire, mais qui tout de même vous aiment. Bénissez notre pays et ramenez-le au cœur de votre divin Fils. Enfin, bonne mère, permettez-nous de vous demander un petit souvenir pour notre pauvre petite chapelle, afin que nous nous rappelions toujours la promesse que nous faisons de vous aimer. Alors cette lettre, elle fut déposée au pied de l'autel de la Sainte Vierge, et bien sûr, le sanctuaire de Notre-Dame des Victoires donna une réponse favorable le 27 juillet 1863. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite un